Radio Cité Genève, Viviane Devitt,
la bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un personnage, je ne reçois que des personnages bien sûr, Pierre-Marcel Favre. Bonjour Pierre-Marcel.
Bonjour.
Alors Pierre-Marcel Favre, éditeur, critique, journaliste, bâtisseur, on va développer tout ça au cours de l'émission. Mais tu sais Pierre-Marcel, je voudrais te poser une question rituelle dans cette émission, tu la connais. Quel petit garçon étais-tu ?
C'est difficile de répondre parce que d'abord il faut soi-même s'exprimer sur soi-même. Bon, c'est discutable. J'étais ni turbulent, ni disons ultra calme. J'étais
normal.
Curieux, voilà, plus ou moins normal, curieux.
Qui étaient tes parents ?
Ma mère était couturière et mon père était garagiste.
D'accord, et c'était dans quelle région ?
Tu es où ? Lausanne.
Comment ?
Lausanne.
Donc oui. Tu es de Lausanne et
Absolument.
Tu es resté vivre à Lausanne.
Oui,
on peut le dire. Tu es un vrai Lausannois.
Bon, oui, encore que, ayant beaucoup voyagé, je connais le reste du monde pas mal du tout.
Alors ça, on va le voir. On va le voir parce qu'effectivement, tu es un sérieux globe-trotteur, on va en parler. Mais avant ça, alors, tu as fait des études normales, de petit garçon normal ?
Oui, je me suis d'emblée intéressé à l'architecture. J'ai fait même l'école supérieure technique de Genève. J'étais, j'ai fait aussi des stages en architecture. Mais
tu avais l'idée de devenir architecte au départ ou pas du tout ?
Disons que, pour être très clair, j'avais toutes sortes de curiosités, une fois de plus, c'est d'intérêts mélangés. C'est-à-dire qu'en même temps, à 17 ans, j'ai fait une licence de pilote, ensuite une licence de pilote professionnel, parallèlement toujours.
Oui, j'ai vu que tu avais ton brevet pour piloter sur Swissair, enfin à l'époque en tout
oui,
cas.
Oui, c'était pas sur Swissair, mais les examens se sont faits chez Swissair, à Zurich.
Voilà. Mais ça, tu l'as jamais utilisé.
Je l'ai pas utilisé en tant que tel. Le pilotage privé, oui, puisque j'ai quand même 2600 atterrissages et que j'ai volé un peu partout dans
le monde. Ah, mais tu es un pilote sérieux, mon cher Pierre-Marcel. Bah, c'est encore une casquette à rajouter à tes nombreuses casquettes qu'on va développer au cours de cette émission.
Figure-toi, je pilote encore.
Tu pilotes toujours.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour piloter encore aujourd'hui ?
Bah, il faut d'ailleurs, il y a quand même des difficultés qui sont que très régulièrement, on passe des examens.
Et alors, les examens sont médicaux, j'imagine, la vue,
alors, celui-là, automatiquement, une fois par année, oui, mais aussi des examens pratiques, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce qu'on appelle la voie, c'est-à-dire le trafic avec les tours d'aéroport, en anglais, on doit faire un test qui est très sérieux, d'ailleurs. On va faire un test de navigation et également de contact avec une tour.
Tu fais ça à Lausanne ? Ça, c'est...
Non, à Genève.
Non, à Genève, oui. D'accord. Bon, on reviendra à cet aspect-là aussi tout à l'heure, parce que c'est amusant, c'est pas banal d'être pilote et de l'être toujours aujourd'hui. Mais avant ça, donc, je voudrais savoir quelle étude tu as faite. Est-ce que tu as fait beaucoup d'études ?
Non, pas vraiment. J'ai fait, donc, je l'ai amorcé tout à l'heure, j'ai fait l'École supérieure technique de Genève, section architecture, j'ai fait l'Institut Athénaeum, j'ai fait...
Qu'est-ce que l'Institut Athénaeum ?
Ben, c'est une école d'architecture privée.
D'accord.
Et ensuite, j'ai fait des stages en architecture, et par la suite, je me suis embarqué à, parallèlement, je le disais, faire une licence de pilote, mais aussi lancer une première... petite entreprise qui était du domaine...
Tu avais quel âge ?
À 21.
À 21 ans. Mais je crois qu'avant ça, tu as beaucoup voyagé, effectivement.
Avant et surtout après, bien entendu, puisque avant, j'étais passionné par la guerre d'Algérie qui était finissante à l'époque. Et
donc on est
61,
en 61, oui c'est ça.
En 61, je suis parti en Algérie.
Tu avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 17 ans.
Alors tes parents t'ont laissé partir tout seul comme ça en Algérie, dans un monde un peu...
Ils n'avaient pas le choix.
Un peu hostile. Ah, ils n'avaient pas le choix ?
Ils n'avaient pas le choix parce que...
Mais tu étais un garçon rebelle alors ?
Rebelle non, mais déterminé.
Déterminé.
C'est-à-dire que là, par exemple, je suis parti en stop jusqu'à Marseille. À Marseille, j'ai pris le bateau Ville d'Alger... Ça coûtait quasiment rien en quatrième classe.
Oui, là, ça devait être un peu folklorique, non ?
C'était, on peut le dire, oui, c'était
un
particulier.
Fond de cale.
Voilà, exactement.
Oui.
On dormait, là, c'était 24 heures, hein, on dormait sur
le pont.
Sur le pont, sur
Tu n'avais pas le mal de mer ?
Non, c'est venu un peu parce que tout le monde était malade. Alors, rien que l'odeur, ça n'aide pas.
Oh là 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 là. Mon cher Pierre-Marcel, on va écouter un peu de musique pour se remettre de ce voyage mouvementé, si tu veux bien. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Pierre-Marcel Favre. Pierre-Marcel, on t'a quitté tout à l'heure avant d'écouter cette musique que tu nous as choisie. On t'a quitté sur le bateau de... Comment s'appelait cette
ville d'Alger.
De ville d'Alger. Donc tu allais en Algérie, tu avais 17 ans, tu t'occupais pas trop de savoir si tes parents étaient d'accord ou pas. Tu allais quand même dans un terrain difficile parce qu'on sait très bien qu'à la fin de la guerre d'Algérie... Voilà, c'était quand même... Il y avait l'effet Laga, il y avait toute cette bataille terrible entre les Français qui voulaient garder l'Algérie et les Algériens qui voulaient leur indépendance, avec toutes sortes de nuances d'ailleurs des deux côtés. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous.
Mais c'était passionnant, bien entendu. J'ai continué sur place à aller voir un maximum de choses.
Par exemple, qu'est-ce que tu as vu? Oui, c'est ça.
Ah, j'ai vu des choses et j'ai vécu des choses extraordinaires. Moi, par exemple, à Alger même, j'étais dans la Casbah alors qu'elle était barrée et que pratiquement aucun Européen osait y mettre les pieds.
Alors, la Casbah d'Alger, que j'ai bien connue parce que mon père a vécu enfant en Algérie, la Casbah d'Alger, c'est un dédale de rue extraordinaire, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, c'est très compact, et vu de l'intérieur, ce sont comme des couloirs sinueux et tortueux, avec des habitations dans lesquelles on ne peut pas deviner qu'à l'intérieur, il y a des cours, des jardins, et pour certaines, des ateliers. Enfin, c'est une ville dans la ville, en quelque sorte.
Tout à fait. C'est une, disons, une ville dans la ville. Typiquement arabe, faut bien le dire, typiquement, disons, en l'occurrence algérienne. Et là, je me suis baladé plusieurs fois sans aucun problème. Par contre, je vais décider de visiter un peu le pays. Un jour, j'étais parti encore une fois en stop en direction de Blida, Médéa Blida. Et j'étais avec un jeune français médecin dans une deux chevaux. Et dans les gorges de la Chifa, entre Blida et Médéa, on s'est fait tirer dessus.
Bon. Oui, c'était l'époque, de toute façon. De toute façon, aujourd'hui, le paysage n'est pas tellement plus sûr. On l'a vu récemment avec les otages, avec l'otage français qui a été enlevé, avec le guide de haute montagne qui a été enlevé. Mais et qui a été tué, bien sûr. Mais à cette époque-là, ce n'était pas facile non plus. Donc c'était beaucoup de courage ou c'était beaucoup d'inconscience à l'époque?
Pour le moment, un petit peu des deux, mais disons qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Moi, je n'imaginais jamais que j'aurais ce type de problème.
Bah, vu c'était depuis Lausanne, route, c'est vrai.
C'était une route, à l'époque, qui serpentait dans la montagne, avec des singes d'ailleurs, avec on voyait les impacts de balles sur les panneaux, enfin c'était assez fort.
C'était un pays qui sortait d'une guerre, d'une vraie guerre.
Non, il était en guerre.
Il était encore en guerre.
En 61, il était en
61.
Guerre.
Oui, tu as raison, puisque les accords d'Évian datent de 1962, absolument.
Ouais.
Donc, tu restes combien de temps en Algérie?
Alors, cette fois-là, c'était l'été, je suis resté un mois. Et je suis revenu, je suis retourné en Algérie à Noël.
À Noël. Donc là, tu avais vraiment une sorte d'envoûtement pour ce pays?
Absolument, tout à fait, on peut le dire. J'étais passionné de comprendre, de tenter de comprendre ce qui se passait. Et c'était surprenant à plus d'un titre, parce que ce qu'on nous racontait ici était très caricatural. On peut très bien comprendre que, en Suisse, la majorité des gens étaient peut-être pour l'indépendance, mais ça n'empêchait pas que ce qu'on disait n'était pas toujours juste. Par exemple, on nous présentait les Européens, le 1 million d'Européens, faut pas oublier, ils étaient très nombreux, le 1 million d'Européens comme des colonialistes.
De Français, 1 million de Français.
Voilà. Français.
D'origine quelquefois espagnole, oui, mais français.
Oui, bien sûr. Et ces gens étaient de tous les milieux possibles. À Babeloued, les gens étaient pauvres. C'était pas du tout que des colons riches qui exploitaient
ça a été la propagande de l'époque. Voilà. Mais peut-être que la grande erreur de la France, enfin, c'est ce que j'entendais dans ma famille, la grande erreur de la France a été de ne pas naturaliser tous les Algériens de façon à ce qu'ils soient tous français.
Bon, tout à fait, on peut se poser la question, c'est-à-dire que il y a deux lectures possibles. On peut se dire, finalement De Gaulle avait raison parce que s'il a fallu absorber 30 millions de musulmans en France, vu les problèmes d'aujourd'hui, ça aurait pu être un peu compliqué.
Ah, mon cher Pierre-Marcel, je te dirai ce que j'ai entendu toute ma jeunesse, c'est que nous n'allons pas les absorber, nous les aurons quand même, sans avoir les pétroles d'Assimi Saoud et la plaine de la Mitidja, qui était quand même très fertile à l'époque, donc qui était un arrière-pays formidable.
Figure-toi que j'ai été aussi à Assimi Saoud. J'ai encore des papiers. J'ai eu une autorisation de voyage au Sahara, etc.
C'était beau en plein désert, cette raffinerie en plein désert, rouge, était magnifique. Rouge et argent étaient une grande beauté.
La compagnie s'appelait SN Repal qui tenait tout ça.
Voilà, nous voilà en Algérie donc, et j'imagine que tu as fait beaucoup d'autres voyages après, puisque tu as été, je l'ai dit tout à l'heure, un très sérieux globe-trotteur. Alors après l'Algérie, où est-ce que tes pas t'ont porté ?
Alors de tous les côtés, puisque j'ai fréquenté ou découvert, ou brièvement ou longuement, 105 pays. Bon, ça fait quand même...
105 pays ?
Oui, absolument. Et donc, des endroits les plus pourris du monde, par exemple, aller au hasard, disons, la Somalie, j'y étais il y a 3 ans, et en Somalie, avec un beau camarade à moi, j'ai publié Le Petit Prince en langue somalie, et on a été le livrer, en livrer de 2-3 valises, c'est-à-dire 500 exemplaires, à la ministre de l'éducation du pays. Bon.
Alors là, tu fais allusion à ton métier d'éditeur que tu vas pratiquer avec le brio que l'on sait. Ça va être l'objet de notre prochaine discussion sur cette antenne, mon cher Pierre-Marcel. Mais en attendant, on va écouter la musique que tu nous as choisie, si tu veux bien.
Thank you.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Pierre-Marcel Favre, éditeur, critique, journaliste, bâtisseur, globetrotteur, nous le voyons, puisque tu as visité 105 pays, c'est colossal, on se dit que tu as dû passer ta vie à voyager. Eh bien non, puisque tu as fait, comme on va le voir, beaucoup d'autres choses. Mais avant de passer à ce qui a été quand même l'œuvre de ta vie, c'est-à-dire le métier de l'édition, je voudrais que tu me parles, tu viens de nous citer la Somalie, qui est un pays effectivement très pauvre et très difficile d'accès, mais je crois que tu es allé en Corée du Nord aussi.
Tout à fait. Oui, franchement, en Corée du Nord, beaucoup de gens peuvent y aller. Il suffit d'obtenir un visa. Souvent, on met quelques mois à l'obtenir, mais on peut s'y rendre. Et j'y étais là-bas il y a 4 ans. C'est quelque chose à voir une fois, effectivement, pour comprendre un peu le système extrême, théoriquement communiste, en fait, une espèce de famille qui se passe le gouvernail l'un après l'autre.
C'est pas le seul pays où ça se passe comme ça, mais je crois qu'il y a quand même une pauvreté, une précarité effrayante.
Oui, disons qu'on caricature encore une fois. C'est pour ça que je trouve passionnant de voyager, c'est d'aller voir vraiment ce qu'il en est sur place.
Tu as le sentiment qu'on nous fait une sorte de réduction de sous-productrice?
Oui. Tout à fait. Si, d'abord, la population est malheureuse, c'est complètement une invention, parce que les gens ayant le système étant oppressif, faut bien le dire, hein, bon, complètement. Vous arrivez là-bas, il nous faut poser notre portable qui est dans une petite boîte bien fermée, il n'y a pas de problème, mais on ne peut plus communiquer. Et la population ne peut pas communiquer avec l'extérieur, donc elle est en vase clos, ce qui fait qu'elle ne sait pas ce qui se passe ailleurs.
Est-ce qu'on est malheureux par différence, par constatation des différences?
Je pense beaucoup.
C'est ça. Beaucoup, donc si on ne sait pas comment ça se passe ailleurs, on n'est pas forcément malheureux.
Voilà, exactement. Bon, alors, il y a eu certes des moments extrêmes, il y a eu quelques famines, mais rappelons-nous qu'il y en a eu aussi en Chine, qui ont fait des centaines de milliers de victimes, si ce n'est des millions de victimes. C'est un système épouvantable, fermé, vraiment.
On n'en sort pas, c'est un pays dont on ne sort pas.
On en sort rarement. Hein. Bon, il y a eu quelques personnes qui ont pu s'échapper à la nage, mais c'est... Ils sont
à la nage.
Oui. Mais autrement, très difficile. Mais bref, ce pays mérite quand même une visite pour comprendre un peu comment ça se passe, réellement. Alors, on est bien entendu fliqué par des agents du KGB local qui se prétendent guides et qui ne vous lâchent pas un instant. Mais ça permet quand même de voir beaucoup, beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses.
Pierre-Marcel, tu es dans la tradition suisse du grand voyageur. C'est une grande tradition dans notre pays. Mais parallèlement à tes grands voyages, c'était pas un métier non plus pour toi. Tu avais pas une agence de tourisme. Je crois que tu as commencé par monter une agence de graphisme et de publicité, c'est ça?
Tout à fait. Bon, c'était de taille très modeste.
Hein, on est en quelle année là? On est en 63 par là?
Non, plus
71.
Voilà.
71.
Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, je m'étais même équipé d'une presse offset et j'avais donc un peu la possibilité de faire le tour dans le domaine de la production de papier, d'ouvrages, etc. Et circonstanciellement, un peu par hasard, des gens m'ont demandé de faire des petits bouquins. Et
c'était des auteurs qui venaient vers toi et qui te demandaient d'éditer leurs livres, c'est ça?
C'était des amis.
Des amis.
Des connaissances. Ainsi, de fil en aiguille, j'en suis venu à produire mes premiers bouquins. La première année, j'en ai fait qu'un, la deuxième, deux ou trois, etc. Et tout ça s'est développé. J'ai rencontré beaucoup d'éditeurs français à Paris, des gens comme Jean-Jacques Pauvert, Eric Le Sfeld, André Ballant, etc. Et je suis devenu assez copain avec eux et ça m'a, disons, encouragé à aller dans leur domaine.
Alors, je crois que tu as édité 1100 titres.
Non, on en est à 1600.
En fait. On en est à 1600. Alors, mes statistiques sont en panne, là. 1600. Ouais. Alors, combien d'exemplaires ? Alors, plus d'un million ? Un million ?
Disons que l'ensemble de tous ces tirages doit faire probablement 1 ou 2 millions d'exemplaires. Je n'ai pas fait le total.
Mais c'est impressionnant, parce que tant de gens ont eu accès à un savoir, à du rêve, à des aventures grâce à toi. C'est formidable, le
sans
métier
doute,
d'éditeur.
Oui, d'ailleurs, par bonheur, plein de gens veulent bien, de temps en temps, me dire « c'est pas tant, j'ai lu tel livre, je ne savais pas que c'était vous, d'ailleurs, de certains, ça venait de chez vous ». Enfin, c'est effectivement un métier formidable parce qu'on y fait des rencontres. Et ces rencontres enrichissent énormément, sur le plan spirituel en particulier.
Alors j'ai une question, Pierre-Marcel, comment gagne-t-on sa vie avec l'édition ? Parce que ça, c'est quand même le grand problème. On imagine très bien l'intérêt que le contact avec les auteurs peut avoir, tu viens d'en parler. On imagine aussi la joie qu'il y a à éditer un livre qui est au fond comme un accouchement, comme ce sont des bébés à qui tu donnes le jour. Mais comment gagne-t-on sa vie dans l'édition ?
Alors, la règle basique est surtout de tenter de ne pas en perdre en se trompant le moins possible. Parce que c'est un choix. L'éditeur, il reçoit régulièrement une quantité invraisemblable de manuscrits, de propositions, d'ouvrages. Ça peut être plusieurs par jour même. Et il faut faire le bon choix, c'est-à-dire qu'il faut savoir dire non, refuser, ce qui est très dérangeant, mais même à des amis d'ailleurs parfois, c'est très dérangeant, c'est qu'on doit vraiment ne pas prendre tout et n'importe quoi tout le temps, pas faire nécessairement plaisir, mais faire en sorte que la plupart des livres, non pas tous, mais la plupart des livres aient vraiment leur chance et puissent obtenir un certain succès.
Alors, ce certain succès, à chaque fois, parce que j'imagine qu'il y a des titres sur lesquels on perd de l'argent et d'autres sur lesquels on gagne, ou est-ce qu'on
exactement
fait une espèce de compensation entre les deux ? Comment ça se passe ?
Oui, il y a une compensation, c'est-à-dire que comme on ne sait jamais ce qui va se passer, on a beau avoir une immense expérience, les surprises sont toujours là. Et c'est le public qui décide du succès des ouvrages. Je t'en ai apporté quelques-uns, tu verras toi-même.
Je t'en remercie parce que je les lis toujours avec un immense plaisir.
Oui. Et ces livres ont un destin souvent tout à fait surprenant.
Alors parlons de ces livres que tu m'as apportés à l'instant.
Oui, ben, volontiers. Il y a par exemple parmi eux un très gros bouquin d'une genevoise photographe qui est passionnée par les minorités chinoises. Alors, elle a fait un travail colossal, on en est d'ailleurs à son deuxième livre. Elle va au plus profond de la Chine recueillir des témoignages, mais surtout photographier des minorités qui sont asiatiques, certes, mais très particulières, qui vivent encore souvent en autarcie.
Alors, on va retrouver, si tu veux bien, les peuples des brumes, puisqu'elle les appelle comme ça. Mais avant ça, on écoute un peu de musique.
Avec plaisir.
Je t'ai vu dans une rue, assise avec ton enfant, sous ta chemise, les épaules nues, couvertes d'or. Pour plaire à ton Dieu, tu danses encore. La rivière coule au pied du temple de l'aurore. Personne ne pleure, ni ne se plaint. La nuit, les rues sont chaudes. Les enfants jouent avec leurs grands yeux sans paupières. Leur peau bronzée, leur ventre clair. La rivière coule au pied du grand Bouddha de pierre. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Je t'ai vu dans la cité étrange. Porte du ciel, ville des anges, avec l'amour, la liberté. Mange la mangue et bois le thé, ta rivière coulera sans s'arrêter. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Je t'ai revu dans la rue, assise avec ton enfant, sous ta chemise, les épaules nues, couvertes d'or. Tu danses toujours, tu danses encore. La rivière coule au pied du temple de l'aurore. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine avec Pierre-Marcel Favre. Pierre-Marcel Favre que nous savons éditeur, il est très connu pour cela aussi. Nous avons vu sa passion pour les voyages, donc son aspect globe-trotteur, plus de 105 pays, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais là maintenant, nous allons parler livres et merci de m'avoir apporté tous ces livres magnifiques qu'on va détailler un par un, mon cher Pierre-Marcel, si tu veux bien. Donc on vient de voir La Chine des minorités ou des peuples des brumes de cette photographe, ça a l'air très beau. Et puis, tu m'as apporté tout un tas de choses formidables parce que ça montre l'éclectisme des éditions Pierre-Marcel Favre.
Tout à fait, on peut le dire, puisque cette maison d'édition que j'ai fondée il y a bien longtemps publie à peu près 50 à 60 livres par année. Ça veut dire plus d'un par semaine. Alors, on a des collections, bien entendu, qu'on alimente, entre guillemets, mais il y a une certaine diversité. Il peut y avoir surtout des essais, des documents, des dossiers, des beaux livres. Et ça fait une palette assez large. On ne touche pas quand même au domaine, par exemple, du scolaire. On ne touche pas à la poésie, on ne touche pas à la BD. Mais pour le reste, il y a une grande ouverture.
Pour le reste, c'est très large. Par exemple, un beau livre sur Stan Wawrinka qui va enchanter les amateurs de tennis. Et puis ici, alors les gourmands. Les gourmands et les gourmets. Picassiette invite les chefs. Toutes les recettes des chefs invités et les recettes d'Annick. Ça ne doit pas être mauvais non plus. Hein.
C'est très sympa.
Tu les as essayées? Parce que je crois savoir que tu es un bon cuisinier.
Non, je ne suis pas vraiment bon. Je me prétends à la rigueur rôtisseur, pas vraiment un grand
pas
cuisinier.
Pas vraiment chef.
Non.
Pas vraiment chef. Et puis alors ici, on a Philippe Durand, Filmothérapie, 52 films qui font du bien. Tu aimes bien
le
cinéma
alors,
aussi?
Bien entendu. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un travail d'un passionné, d'un historien du cinéma qui prétend, et je pense qu'il a bien raison, que les films peuvent aussi nous servir. C'est-à-dire que Il nous fait une démonstration avec un certain nombre de films cultes intéressants. Il montre qu'ils peuvent avoir un effet thérapeutique.
Il montre une voie, ils empêchent de tomber dans certaines déviances.
Mais oui, parce que le cinéma nous influence. Certains films nous restent en mémoire longtemps et ils peuvent, à un moment donné, nous apporter quelque chose.
Alors, nous avons aussi Emmanuel Ventura, architecture utopique, imaginaire ou visionnaire. Alors, tu as dit tout à l'heure, tout au début de notre émission, que tu avais passé un certificat d'architecture. Oui. Est-ce que c'est en liaison ?
Directement, sans doute pas, mais le goût pour ce travail, oui. Là, il s'agit donc d'un ouvrage qui mélange des projets qui ont été réalisés et des projets qui sont restés lettre morte. Alors, ce livre présente une centaine de ces fantastiques projets qui sont novateurs, esthétiques, intéressants, qui vraiment font un tour du monde de ce qui s'est fait d'un peu fou.
Alors, on commence par la ziggurate, on commence par la tour de Babel,
bien
oui.
Sûr.
Et qui effectivement, qui a toujours fait rêver beaucoup de gens. Nous en faisons partie.
Et voilà, il y a pour la Suisse, il y a un projet important qui est en train d'être qui sera bientôt fini, qui est le fameux la fameuse cité du livre à Montricher que Vera Michalski a créé, a fait bâtir et qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel.
On verra, on regardera et on feuilletera. Et puis on lira aussi avec plaisir, parce qu'il y a des explications très, très précises. Et puis Dominique Valbel, Charles Bonnet de la Vigne au Jujubier. Alors ça, il faut que tu nous expliques là.
Alors, Charles Bonnet a obtenu le Grand Prix de Genève il y a 2 ans. Bon, c'est un personnage exceptionnel, fantastique, chercheur. Et il est archéologue. Et on lui doit, par exemple, toutes les fouilles qui ont été faites sous la cathédrale de Genève. Il y a là-bas un très joli musée à visiter sous la cathédrale. Et ce même personnage a découvert au Soudan les fameuses pharaons noirs et les travaux fantastiques qu'ils ont pu faire à l'époque. Aujourd'hui, il a à peu près 80...
Il est un peu plus jeune, là, sur la photo du livre.
Ouais, à peine.
Il est super bien conservé.
Oui, on peut le dire. Et... il est plusieurs mois par année encore en train de faire des fouilles au Soudan.
Alors,
et il a
Marcel,
découvert
il faudrait...
encore
oui.
plein de gens. C'est un voisin, hein, il est tout près d'ici.
J'allais te dire, il faudra nous l'amener pour l'émission. On sera heureux de l'interviewer.
Oui, mais il n'y a pas de doute, il le mérite et c'est un personnage exceptionnel.
Donc le sous-titre du livre est « Des cathédrales d'Europe aux premières villes d'Afrique, quand l'archéologie écrit l'histoire ».
Oui,
c'est beau.
C'est sa bio et il méritait bien une bio.
Alors j'ai gardé Bartabas et Cédric Villani pour la fin. Comment conjuguer passion et création? Dialogue inattendu entre un artiste et un scientifique talentueux.
Oui, ce livre est une formule actuelle. C'est de temps en temps de faire des livres interviews. Bon, alors, Bartabas, j'ai publié plusieurs livres
Bartabas,
de lui.
Rappelle pour les auditeurs qui l'auraient oublié ou qui ne le sauraient pas, que c'est ce véritable artiste de la haute équitation.
Tout à fait. Il donne des spectacles. D'ailleurs, en Suisse,
il est passé plusieurs fois, souvent.
Et avec un succès colossal.
Absolument.
Il méritait, une fois, d'aller un peu plus loin dans le cadre d'un dialogue. Bon. Mais c'est vraiment un personnage haut en couleur qui...
Tu as rencontré Bartabas?
Ah bien sûr, plusieurs fois, oui bien sûr. C'est vraiment un type épatant.
Et c'est un personnage assez fascinant. D'abord la proximité des chevaux et la maîtrise des chevaux difficiles à ce stade-là.
Absolument.
À ce niveau-là, c'est quand même quelque chose de très fascinant.
Il crée des spectacles qui sont époustouflants.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. petit con de la dernière traverse, vieux con des neiges d'antan. Vous les connaissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Avec Pierre-Marcel Favre. On a vu que Pierre-Marcel Favre était un sérieux globe-trotteur, plus de 105 pays visités. On l'a vu éditeur, nous venons de parler de ses derniers bébés, puisque ce sont un peu, au fond, ce sont tes bébés. Ce sont tes...
On peut le dire aussi comme ça, oui.
Voilà. Et puis maintenant, je voudrais parler de quelque chose que les Genevois ont bien connu, c'est ce Salon international du livre et de la presse que tu as créé en 1987. Alors raconte-nous cette aventure-là.
Alors oui, il faut dire que en Suisse, on est quand même parmi les plus grands lecteurs au monde. Il y a aussi une histoire. On a immédiatement derrière les Allemands, on a publié les premiers, on a édité, disons, imprimé les premières Bibles. Nous avons des bibliothèques formidables. Bon, on a un nombre important de petits ou moyens éditeurs. Et il n'y avait pas de fête pour célébrer tout cela. Il n'y avait pas ni salon, ni foire, ni fête du livre. Et j'étais à l'époque vice-président de l'association des éditeurs et j'allais un peu partout dans le monde et je voyais ces manifestations. Et j'en ai conclu qu'il y avait une lacune à combler. Alors je me suis empressé de monter quelque chose qui tenait la route et j'ai voulu le faire à Genève puisque le faut dire que Palexpo est une position idéale pour ça.
Proche de l'aéroport, ce qui compte.
Etc. Sur tous les plans, quoi. C'est extrêmement
favorable. C'est un bel établissement.
Et j'ai donc lancé, en le préparant 2 ans auparavant, le premier salon en 87. Il y a eu immédiatement un grand succès. Tout de suite, ça a fonctionné. Il y a eu beaucoup, beaucoup de public.
Alors, je crois que tu avais 120 000 visiteurs par an, ce qui est vraiment très bien. Parce que n'oublions pas quand même que Genève n'est pas Paris et que c'est une ville où, avec la campagne, on a largement, on peut dire, 300 000 habitants. Donc, avoir la moitié de la ville en visite,
part,
c'est formidable.
Oui, mais pas seulement. Il y avait quand même, il y a toujours d'ailleurs, des dizaines de milliers de visiteurs de France, puisqu'on est quand même à deux pas d'Annecy, même de Lyon.
Oui, c'était une image de dire que c'était la moitié du canton qui était en promenade chez toi. Mais en fait, c'était une grande satisfaction quand même parce que tu as mené ce salon
pendant 23 ans.
Ouais. Oui. Ça t'a apporté beaucoup de joie, je crois.
Sans aucun doute, oui. C'est la grande satisfaction, c'est de voir que quelque chose dure et les exposants et les visiteurs sont heureux.
Alors, tu as fait aussi une autre création. Je ne savais pas que c'était toi. Et c'est en préparant cette émission que j'ai découvert que tu avais fondé le musée de l'automobile qui était au sein de Palexpo, qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Mais je crois qu'en 1994, c'est toi qui as eu cette idée.
Oui, c'était tout à fait au hasard, les circonstances. Il se trouvait à l'époque que le restaurateur, qui s'appelait Curchaud, qui vient de disparaître d'ailleurs, m'avait un jour posé une question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour animer un peu de manière permanente ?
C'était en sous-sol, c'était pas les endroits les plus excitants de Palexpo.
Oui, mais bon, il y a un historique, quoi. À l'époque, il avait envie qu'il y ait quelque chose. En surface, c'était absolument impossible à faire. Mais à l'époque, on construisait la halle 7 derrière, de l'autre côté de l'autoroute, côté aéroport. Et la seule unique possibilité, il n'y en avait vraiment pas deux, c'était d'utiliser une partie des sous-sols de cette halle 7. Et ça a pu se faire en peu de temps.
Mais je crois que tu as trouvé 20 millions de financement, ce qui à l'époque n'a pas été négligeable. Et puis 500 voitures de collectionneurs, m'a-t-on dit.
Ouais, en quelques mois, tout cela a fonctionné. Cela dit, comme toutes les entreprises, il faut doter de durée. Pour cela, il aurait fallu encore avoir des moyens complémentaires et surtout une équipe qui, disons, pouvait continuer ce travail que j'ai initié. Et là, il y avait un certain nombre de dissidences, de gens qui auraient vu les choses autrement.
Le musée a disparu ça a été quand même une grande tristesse pour Genève. J'ai un mari collectionneur de vieilles voitures qui a trouvé ça vraiment trop, trop dommage.
Bien sûr, tout à fait.
Ça fait partie des regrets qu'on peut avoir. Mais tu as créé encore beaucoup d'autres choses. Je crois que tu as acheté, transformé, construit 5 immeubles. Alors là, c'est l'aspect bâtisseur de ton œuvre et de ton personnage.
Oui, j'ai fait ça au centre de Lausanne, dans un endroit qui était un peu pourri, un peu délaissé, derrière la rue de Bourg. J'ai tenu à les réhabiliter, ces immeubles, et j'en ai construit de 0 à 1, et les autres ont été simplement réaménagés, alors que ils étaient plus ou moins en ruine.
Alors ça, c'est une autre aventure. Ça se raccroche directement à tes débuts dans la vie où tu as passé ton certificat d'architecte.
Tout à fait, c'est une expérience concrète.
Mais est-ce que c'était un regret dans ta vie d'éditeur, dans ta vie de globe-trotteur, de ne pas avoir laissé une trace sous forme d'immeuble ?
Non, pas du tout. Récemment, j'ai fait aussi une très grande transformation à Prévrange d'un magnifique bâtiment classé que j'ai habité ensuite, que j'ai cédé. Mais ce sont des belles expériences, mais je pense que y a rien d'éternel. On peut très bien être très libre de ces mouvements. On n'a pas besoin de se
bloquer. Tu as déménagé souvent dans ta vie ?
Oh, une dizaine de fois.
Ah oui, c'est impressionnant quand même. Pour la portée de tout le monde. Alors à chaque fois, tu te refais un autre univers ?
Oui, j'essaye en tout cas.
Alors, la maison de rêve, celle que tu appelles ta cabane, est-ce que c'est la dernière, l'avant-dernière ?
Alors oui, la pseudo-cabane était en fait est un monument, mais voilà, je n'y suis plus.
Tu n'y es plus ?
Non.
Et alors la dernière acquisition ou la dernière création, enveloppe ?
Je suis en stand-by pour quelque chose.
Ah, en stand-by pour quelque chose. Alors on va pas le dire, ça restera une surprise pour la prochaine émission, ou est-ce qu'on peut en dire un mot ?
Non, disons, j'ai en vue quelque chose qui me conviendrait parfaitement bien, mais qui fait l'objet pour le moment d'un litige successoral.
Ah. Et c'est comme en Corse où il y a des indivisions et on n'arrive jamais à obtenir de racheter une jolie vieille maison. C'est un peu ça ?
Cela y ressemble.
À Lausanne ?
Oui.
Ah oui. Eh bien, écoute, alors il nous restera justement beaucoup de choses à découvrir lors d'une prochaine émission où je ne manquerai pas de t'inviter, mon cher Pierre-Marcel. Et maintenant, je voudrais dire un mot quand même de toutes ces décorations que tu as reçues ces dernières années. Parce que tu as été honoré de la décoration de la Légion d'honneur. Tu es chevalier de la Légion d'honneur. Je crois que c'était Jean-Pierre Chevènement qui te l'avait remise. Tu as eu les arts et lettres aussi en France. Tu es même officier des arts et lettres.
Et
officier de la Légion d'honneur. Donc tu as été par deux fois reconnu.
Quatre fois.
Bon. Quatre fois.
Ben oui. D'abord chevalier, ensuite officier, les deux fois.
Bon. Et puis, dernièrement, tu as été nommé commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Alors parle-nous de cette expérience-là qui est très belle.
Qui est toute récente d'ailleurs, toute récente. Avec une vingtaine de camarades, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour être précis, pour ce petit événement extrêmement sympathique qui était dû au fait que, tout simplement, à l'époque, au Salon du Livre, j'avais créé le Salon africain du Livre et de la Presse et j'ai pu ainsi faire venir à Genève de nombreux écrivains africains en général, ivoiriens en particulier. J'en ai publié certains le gouvernement de Côte d'Ivoire, par la personne de son président Alassane Ouattara, avait remarqué la chose et avait décidé de m'attribuer une décoration pour me remercier de ce que j'ai pu faire.
Alors, je crois que tu as publié aussi des chroniques afro-sarcastiques.
Alors, ça, c'était un bouquin du directeur, rédacteur en chef du journal Fraternité Matin d'Abidjan.
Et puis, tu as réalisé, je crois que c'était en 2004, un pavillon de 900 mètres carrés qui a été dédié à la littérature africaine.
C'était le Salon Africain.
C'était le Salon Africain. Donc, c'était à l'intérieur du Salon du Livre.
Absolument. Ça continue d'ailleurs pour le moment.
Ça continue toujours. Oui. Tu as encore une grande action dans ce salon, peu, moins ?
Non, pas vraiment. Disons, je suis théoriquement président d'honneur, mais je trouve que à chaque fois qu'on quitte quelque chose, il ne faut pas absolument s'accrocher. Il faut savoir laisser faire d'autres gens qui peuvent très très bien renouveler et continuer quelque chose qui a bien débuté.
Alors Pierre-Marcel, tu as fait une vie formidable parce qu'on l'a vu, tu as été globetrotteur, tu as été éditeur, bâtisseur, tu es reconnu par tes pairs, et ce non seulement de ton pays mais de d'autres pays. Qu'est-ce qui te reste à rêver ?
Je ne fonctionnerai pas comme ça. Moi, j'ai dit tout continue, c'est-à-dire que je ne vais pas cesser d'éditer des livres, d'une part. D'autre part, je ne vais pas cesser de faire des voyages de découverte. Je serai dans quelques semaines aux Comores. J'ai déjà été une fois dans la région, mais là, ce sera, disons, assez proche. Et je vais rencontrer aussi le Premier ministre de Madagascar, Antananarivo, etc. Enfin bref, voilà, tout continue.
Merci Pierre-Marcel, merci d'être venu nous conter toutes tes aventures, toutes tes expériences, cette vie magnifique que tu as faite. Et puis j'espère que tu viendras nous raconter la suite de tes voyages et de tes belles éditions. Et nous remercions aussi bien entendu Jackie Elsesser qui nous aide à monter cette émission, ainsi qu'Alexandre Jean-Renaud. Et nous te disons à une prochaine fois pour une autre émission.
J'y compte bien.
À bientôt, au revoir. Thank you.
Thank you.